club.
Wow.
Là, on parle.
Wamba et bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Côté Club, votre quotidienne en live sur France Inter. Tout pour la musique du lundi au vendredi avec Marion Guilbeault. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Ce soir, le monde est stone, on cherche le soleil au milieu de la nuit. C'est comme un éclair dans le brouillard avec nos invités Thomas Joly et David Herman Dune. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Salut.
Thomas Joly, metteur en scène superstar qui signe son Starmania, une version laser de l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon. Starmania qui enflamme la scène musicale à Paris-Boulogne avec un sens du spectacle qui laisse augurer de ce que vous allez produire pour les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, puisque vous en êtes le directeur artistique. À vos côtés, Herman Dune, David Herman Dune signe The Portable Herman Dunes volume 1, une anthologie acoustique qui revient sur 22 ans de musique. C'est que le volume 1, il y en aura 3. Des versions brutes, réduites à l'essentiel, en live ce soir avec 2 titres. Et pour vous Marion ?
Demain, c'est le jour des sorties pour la musique. 3 sons à découvrir dans les nouveautés nouvelles, ce sera vers 22h30.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Thomas Joly et David Herman Dune ont rendez-vous dans Côté Club. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontrés.
À l'instant.
Parfait, alors je vais faire les présentations. Thomas Joly, metteur en scène, et quel metteur en scène ? Un des rares en France à savoir mettre en œuvre des super productions monumentales, récemment encore 24 heures de théâtre non-stop avec la tétralogie de Shakespeare. Ça donne d'ailleurs lieu à une série documentaire sur France Télévisions à partir du 24 novembre, nom de code H6R3 pour Henri VI et Richard III. Thomas Joly, directeur artistique des cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, et aujourd'hui, le metteur en scène de Starmania, l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon, créé en 79, que vous connaissez, David Herman Dune, ou pas du tout, alors même que vous avez quand même vécu en France, ouais. Même si ce n'est pas votre répertoire.
J'ai vécu assez en France pour connaître Starmania. Très bien. Récemment, j'ai même entendu une belle version de « Quand on arrive en ville ». J'avais de la famille qui venait me rendre visite dans mon studio et une petite fille qui s'appelait Ethel, qui a vers les 8 ans, m'a joué une version au piano. C'était très beau.
C'était Daniel Balavoine qui chantait ça.
En 79.
En 79.
Tout à fait.
Mais le rôle avait été fait pour Johnny
Hallyday.
Exactement. Avant Starmania, vous aviez signé déjà des mises en scène d'opéra. Je me suis demandé si des chanteurs et des chanteuses vous avaient déjà contacté pour mettre en scène et scénographier leurs concerts.
Des chanteurs de musique ?
Ben oui.
Ouais, tout à fait. J'ai travaillé avec Raphaël Lanader. Et Babix d'ailleurs, dans un trio, on avait tous les trois un spectacle autour de l'œuvre de Barbara.
J'ai aussi, génial, ouais.
Merci. J'ai aussi travaillé avec Raphaël sur son propre concert perso, et puis d'autres aussi qui m'ont contacté et avec qui ça ne s'est pas fait pour l'instant.
Herman Dune, alias David, en tournée en France, qui nous arrive de Los Angeles, ça se passe bien ?
Super, j'adore cette tournée.
Au départ, dans les années 90, c'est un groupe, Herman Dune, avec votre frère André, puis chacun va mener des projets solos respectifs. Signe particulier, on vous présente toujours comme le chantre de l'antifolk. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble, l'antifolk ?
L'antifolk, ah non, malheureusement, non. Mais vous suis curieux de savoir.
Ouais, c'est un mouvement très précis qui était né à New York,
c'est Herman une scène, ce qu'on appelle une scène, plus qu'un style de musique, parce que ça va vraiment du métal à la musique baroque, l'antifolk, c'était une scène qui se produisait dans un lieu qui s'appelait le Sidewalk, à New York, d'où sont issus les plus connus certainement seront les Strokes, mais aussi les Moldy Peaches, donc plein de styles différents.
Au début des années 2000 ?
Au début des années 2000, et j'ai eu la chance de jouer donc, dans cette scène, et j'ai été affilié antifolk par ça. Mais je décrirais plus ma musique comme folk contemporaine, c'est-à-dire la musique qui ressemble à la musique traditionnelle folk, mais c'est mes propres chansons.
Mais cette scène anti-folk, vous l'avez même exportée jusqu'en France, puisqu'il y avait une petite scène, le pop...
Le pop-in,
vous produisiez, c'était les dimanches, il y avait toute une scène anti-folk dont vous étiez le maître d'œuvre.
Pendant des années, ouais, j'ai fait venir des gens comme Kimia Dawson, Adam Green, ou tous les gens de l'anti-folk, je les ai fait venir à Paris, soit au pop-in, soit au festival Mofo, à main d'œuvre. Et c'était une joie de faire découvrir cette musique.
Pourquoi on appelait ça l'antifolk ?
Alors c'est une raison très précise, c'est pas aussi, on dirait que c'est contre la folk,
oui,
mais
c'est-à-dire
que la soirée au Sidewalk s'appelait anti-hoot, c'est-à-dire comme si c'était le contraire d'un open mic. Et donc la folk qu'on jouait là-bas s'est fait appeler antifolk, mais je pense que personne dans l'antifolk ne prévoyait que ça deviendrait un terme repris dans les journaux ou quoi que ce soit, c'était une façon de parler de cette scène.
Petit exercice d'admiration pour vous deux. Pour vous, ça sera ce titre-là, Herman Dune.
I've been tearing around in my fucking account 24/7.
ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad, cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have.
Lana Del Rey, manifestement, c'est votre répertoire.
Ah, je suis fan.
Amanda Dune, ouais.
Trop fan, c'est une de mes chanteuses préférées, j'adore. Souvent, je trouve que c'est un peu la Leonard Cohen de ma génération. J'adore son travail, sa façon d'écrire, sa poésie, sa voix. Et cette chanson, c'est un bon exemple, je trouve. Elle me fait penser à Famous Blue Raincoat dans son style. Et j'aime beaucoup la rime Sylvia Plath, un sociopath.
Vous l'avez rencontré ?
Je l'ai jamais rencontré, non. Mais par contre, tous les soirs sur scène, je rentre en scène sur un morceau de Lana Del Rey, instrumental que j'adore.
Lana Del Rey pour vous, Thomas Joly, ça fonctionne comme référence aussi ?
Ah bah tellement, la singularité de Lana Del Rey, qui est juste unique hein, dans le paysage. Après, moi, je ne sais pas où la ranger, mais elle me touche direct, oui.
Autre exercice d'admiration, mais là de circonstance, bien sûr, pour Thomas Joly. Je vois Stéphane Le Guenec qui rit derrière la vitre, parce qu'il sait que c'est une de mes chansons favorites, avec une interprète que j'idolâtre par-dessus tout, c'est Diane Dufresne, avec une montée progressive du chant jusqu'au cri final, puisque presque toutes les chansons de Diane Dufresne finissent par un cri opératique, exactement.
Qui va bien avec le personnage de Stella Spotlight, puisque là, elle interprète Stella Spotlight, la diva, l'actrice de cinéma sur la pente descendante. Et la singularité de Diane Dufresne, mais un petit peu d'ailleurs comme tous les interprètes de Starmania en 79 ont imprimé quelque chose à ses rôles qui est inoubliable. Et c'est même pas un exercice d'admiration, là, je fais, c'est juste de l'admiration tout court.
Quand vous avez découvert Starmania très jeune, quels étaient les titres qui vous avaient marqué à l'époque ?
Celui-ci. Ouais. Moi aussi, devant mon miroir, j'ai rêvé d'être une star. Hein, elle le dit dans le rêve de Stella Spotlight. Et travesti, Sadia, le rôle de Sadia.
Chanté à l'époque par Nanette Workman. On va y revenir. On va entrer dans Naziland dans quelques instants. Mais d'abord, je vous invite à fuguer avec Juliette Armanet, qui est à elle seule une comédie musicale. Je crois que c'est votre choix dans la playlist, Thomas Joly.
Tout à fait. D'autant que le morceau est produit par Victor Lehmann, qui signe la direction musicale de Starmania. Et donc... Victor plus Juliette Armanet, je pense que c'est le bon combo.
Vous l'avez vu en concert ?
Juliette ?
Ouais.
Non.
Ah, c'est phénoménal.
C'est vrai ?
Ah ouais, phénoménal.
Fuguer, faire le pas de deux, le pas de côté, cœur et poing levé, partir en fumée, foncer, t'aimer, oh. Fuguer, le ruban perdu, les cheveux défaits, brûler tous les feux aussi tu savais, ouais. Malgré tout, malgré les points de côté, s'envoyer valser pour un seul baiser, voler, voulu, oh. Fuguer, le ruban perdu, je l'avais trouvé, dans tes cheveux défaits, aux miens emmêlés, ouais. Et je coule dans ma tête, jour, nuit, je fais le tour du tête, sans aucun répit. Oui, je coule à ma tête. Je cherche encore ta planète. Fuguer, crochet, décrocher pour toi m'accrocher. Sur ton étoile filée, sur mes pieds danser. T'aimer, 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 t'aimer. Wow. Fuguer, le ruban, je veux plus jamais le dénouer. Perdu et perdu, je m'en fous, j'ai signé. Fuguer. Tu sais, c'est pas du chiquet. Tu jamais vu, jamais, oh, je le sais. Et je cours là dans ma tête. Jour, nuit, je fais le tour du tête à tête. Sans aucun répit. Oui, je cours là dans ma tête. Je cherche. cœur et poing levé, partir en fumée, foncer, t'aimer. Je cours là dans ma tête, je cours, rien ne m'arrête. Je cherche encore où est ta planète.
Je cours là dans ma tête, jour, nuit, je fais le tour.
Fuguer, un des cinq inédits de la réédition de l'album Brûler le feu, signé Juliette Armanet. Alors Starmania, c'est le retour 40 ans plus tard, et puis c'est vous, Thomas Joly, qui donnez votre vision de cette opéra rock créée en 79, musique Michel Berger, livret Luc Plamondon, que vous avez rencontré. Vous étiez plusieurs metteurs en scène sur le projet.
Alors, moi, au moment où j'ai planché, il y avait déjà eu des projets qui n'avaient pas été gardés, et moi, ils m'ont proposé le projet en mars 2019. Et au départ, c'était l'idée de retravailler sur le livret de 89, parce que donc il y a une version 79, une en 89, version scénique, hein, et une version en 93. Et la base du livret 89, puisque c'était celui fait par Michel Berger et Luc Plamondon eux-mêmes, hein, qui avaient fait le spectacle. Et moi, j'ai juste proposé qu'on fasse autrement, et qu'on puisse enfin, peut-être, mettre à jour l'histoire et la narration de Starmania, puisque bon, les chansons, tout le monde les connaît, et n'ont besoin de personne pour continuer leur légende.
Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas les liens entre les chansons.
Ouais. Les liens, et puis même ce que raconte Starmania, on ne sait même pas que Starmania est le nom d'une émission pour devenir star, comme on en connaît beaucoup aujourd'hui.
Une émission de télévision.
Exactement. Et donc, mon travail a démarré comme ça, avant tout projet scénographique, et j'ai rencontré Luc, et on a travaillé ensemble, chez lui, à rebâtir ce livret.
Monter une comédie musicale, vous y aviez déjà pensé auparavant ?
Oui, ce que j'aime dans la comédie musicale, c'est la possibilité, ce qu'elle offre en termes de possibilités scéniques, oniriques. Mais j'avais jamais eu l'occasion d'être approché, parce que là, c'est Starmania qui est venu à moi, hein, c'est pas moi qui ai demandé, et je suis tout à fait heureux que ce rêve-là, ce rêve que je n'osais pas faire, se réalise. Ouais.
Vous avez cette culture-là ? David Ermendune, je vois sourire par rapport à la comédie musicale.
Moi, dans la vie, je m'exprime en chantant.
Donc votre vie est une comédie musicale, c'est ce que vous allez nous faire dire. Très bien. Starmania, donc fin des années 70, c'est la vision d'un monde gagné par l'ultra-capitalisme raciste, incarné par Zéro Janvier, un populiste milliardaire qui se rêve en artiste au sommet d'une tour. C'est la préfiguration de Donald Trump. Face à lui, il y avait quand même le grand gourou fanatique écologiste qui organise des partouzes.
Exact.
Exactement. Une ville monopoliste, Naziland, où règne une violence orchestrée par une bande de zonards qui va trouver sa gloire médiatique en séduisant une journaliste star de la télévision. Et oui, c'est ça quand même l'histoire qu'on ne connaissait pas. Une contre-culture dans un underground café qui pourrait bien céder aux lumières du pouvoir autoritaire qui se met en place. Il n'y a pas des blancs, il n'y a pas des noirs, tout le monde est gris dans cette histoire. Bref, un monde désespérant, de bruit, de fureur et de vice. C'est pas mal pour quelqu'un qui est shakespearien comme vous, Thomas Joly.
Ah mais moi je suis à la maison, hein, pour le coup, avec Starmania. Et vous dites shakespearien, et c'est tout à fait juste d'abord, parce que la chance que j'ai, c'est qu'un peu comme Shakespeare, on n'a pas de traces, beaucoup, de l'œuvre, de la création originale. Il n'y a pas de vidéo.
Il y a juste le disque.
Il y a le disque, il y a quelques extraits, quelques photos. Et en fait, je crois que c'est la chance de Starmania, c'est que tous les metteurs en scène peuvent s'en emparer avec leurs propres obsessions, etc. Moi, ma ligne, c'était évidemment la noirceur et puis le récit.
Et le brillant aussi, puisque la noirceur et le brillant, c'est quelque chose qui travaille toutes vos mises en scène. Pourtant, au départ, j'ai pu lire qu'on vous avait trouvé trop timide sur la vision que vous aviez de la pièce et qu'il avait fallu vous décoincer.
Bah, disons que j'ai proposé, après 3 mois de travail, un premier projet scénographique qui a été recalé, effectivement, avec cet argument que je ne rêvais pas assez. Ce qui m'a surpris, parce que déjà je le trouvais plutôt costaud, bon, mais du coup on est allé plus loin et on a développé ce projet qui est en ce moment la scène musicale.
On va parler de ce que l'on voit sur scène dans quelques instants, mais d'abord Starmania, c'était aussi une usine à tubes, ouais, avec un casting repéré, France Gall. Ce casting repéré, il y avait aussi bien sûr Diane Dufresne, moins repérée et qui va se faire repérer, c'est Balavoine.
Quand on arrive en ville, viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang, c'est nos lames de rasoir. Ça fait comme un éclat dans le brouillard. Qu'on arrive en ville.
Bien sûr, dans les repérés de l'époque, Fabienne Thibault. Et puis enfin des outsiders que j'ai adorés, comme cette Nanette Workman dont on parlait tout à l'heure ensemble, choriste exceptionnelle avec un sacré tempérament, qui était par ailleurs la maîtresse explosive de Johnny Hallyday, toujours lui, travesti. Je suis... Bon, ça c'était la version 79 et puis un peu plus tard. Aujourd'hui on est en 2022 et cette fois-ci, tous les chanteurs sont inconnus ou du moins pas repérés.
Non, un peu comme en 79 parce que hormis France Gall et Diane Dufresne, mais qui sont arrivés après. Au départ, Michel Berger et Luc Plamondon ne souhaitaient pas qu'elles participent, parce que c'était leurs deux muses à chacun, ouais. Qu'elles participent au projet. Bon, finalement, je crois, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, mais en tout cas, elles ont intégré le projet. Donc au départ, c'était vraiment l'histoire, les chansons en premier et pas de vedettes. Et donc, on a gardé cette idée-là en trouvant, dans les trois années de gestation de ce projet, les voix qui pouvaient porter à nouveau ces personnages.
Alors le problème, c'est que ce n'est pas simplement des voix, il y a aussi quelque chose que j'aimerais savoir sur la direction d'acteur, parce que ça ne fait pas comédie musicale. On en a vu des comédies musicales, on voit des gens qui chantent, parfois très bien, mais qui ne savent absolument pas jouer. Rien à voir avec ce que vous avez mis en place. Comment vous avez travaillé avec eux, peut-être même lors des auditions, pour que ça soit des chanteurs, acteurs, au même titre ?
Pour moi, un peu comme à l'opéra d'ailleurs. Entre le théâtre et l'opéra, il y a une différence de travail qui est l'inverse. C'est-à-dire qu'à l'opéra, on a la partition, tout est calé, les silences, les rythmes, les tempos, etc. Il faut comprendre pourquoi. Au théâtre, on n'a rien de calé, on a juste un texte et il faut construire la musicalité. Donc en fait, j'ai travaillé exactement comme je travaille avec les chanteurs d'opéra, en précisant bien qu'on chante ou qu'on parle finalement, c'est de la pensée à voix haute. Et donc, après, physiquement parlant, j'ai conservé les micro-mains. D'abord parce que c'est un opéra rock, et puis parce qu'aussi ça leur donne une énergie, qui est la leur, celle de chanteur, qui dessine le personnage sans qu'on ait davantage à rajouter ou à interpréter. Et je pense que cet équilibre-là entre la pensée à voix haute et ce micro à la main donne le caractère de ces personnages.
Est-ce que vous leur avez aussi donné, je ne sais pas, des indications, des films à regarder, des personnages qui auraient pu fonctionner comme repères ?
On a évidemment épluché tout un tas de choses dans la dramaturgie. On a regardé Balavoine, par exemple, en dehors de Starmania aussi, comme personnage politique, enfin en tout cas artiste militant. Moi, j'ai fait travailler en fait les interprètes avec qui je travaille au théâtre, à l'opéra ou dans ce projet-là. Je leur demande de me ramener tous les jours ce que j'appelle des matières fun. Une matière, quelle qu'elle soit, film, roman, musique, publicité, recette de cuisine, peu m'importe, tant qu'ils peuvent justifier pourquoi elle est reliée à l'œuvre. Donc ça nous crée comme ça une espèce de grand lexique, de grand glossaire qu'on partage à tous pour travailler.
Alors je vous posais cette question car il y a à un moment donné, un moment de bravoure, c'est la fuite de Johnny Roquefort. Bon, le nom est toujours absurde. De Johnny Roquefort et de Crystal, donc la star de télévision, filmée caméra à l'épaule dans un noir et blanc absolument superbe, une sorte de court-métrage qui vient trouer la scène.
Eh ouais, c'est ma première incursion de la vidéo dans mon travail.
C'est pour ça que je vous posais cette question, parce que jusqu'à présent, ça n'était pas possible. Et là, via la comédie musicale, via donc, cette dimension de fiction cinématographique, véritablement est en train d'arriver.
J'y viens. Ouais. Disons que l'œuvre parle de la télévision, vous l'avez dit, on a un rapport à l'image dans cette œuvre qui est prédominant. Et sur ce kidnapping, oui, j'ai pour la première fois accepté de prendre une caméra et de faire un court-métrage. Et donc c'est ma première réalisation. Voilà. Ça m'a plu de faire ça aussi. Et on verra. Faut aussi que l'œuvre nécessite la vidéo. Là, pour le coup, elle le nécessitait, c'est pour ça que je l'ai fait.
Thomas Joly, vous restez avec nous. On va retrouver en live David Hermandune dans quelques instants. Et les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault. En parlant de nouvelles, on écoute celle de Bertrand Belin qui lui aussi publie une réédition augmentée de son album Tambour Vision avec des inédits. Ça sort vendredi. La nouvelle, c'est sur France Inter.
La nouvelle est tombée. La nouvelle est tombée.
Si on passait aux nouveautés nouvelles signées Marion Guilbeault dans Côté Club.
Côté Club.
Le son est nickel, okay. Le texte est impeccable,
parfait.
La rythmique tourne comme il faut.
Super.
Il y a la réverb qu'il faut.
Impeccable.
Non, bien joué. Ben.
Des nouveautés nouvelles avec trois propositions qui retravaillent les bases du rock ce soir. On ouvre avec un musicien qui a suivi le chemin inverse du vôtre, David Hermandune. Nathan Roche est né en Australie, mais c'est en venant à Paris en 2014 qu'il plonge, au propre comme au figuré, dans le rock échevelé avec son groupe Le Villejuif Underground. Pour contrebalancer 5 années de cette vie dans le rouge et dans les Larsen, Nathan Roche vit aujourd'hui proche de la nature dans la vallée de la Roya. Alors n'attendez pas pour autant de lui un virage bucolique, hein. Nathan Roche laisse toujours traîner ses chansons tordues du côté du Velvet Underground et de Jonathan Richman. A Break Away, c'est le titre de son nouvel album solo. Un disque en mode échappée belle, donc enregistré lors d'un retour en Australie. L'occasion pour ce grand blond à la guitare noire de revisiter ses souvenirs, des souvenirs de disquaires en particulier et de fans de musique à 6 cordes. Make Me Say It, c'est le titre qui ouvre A Breakaway. C'est le nouvel album solo de Nathan Roche avec plein de musique à guitare dedans. Ça sort vendredi chez Born Bad Records et Nathan Roche sera en concert au Bar en Transe à Rennes le 8 décembre. Pas de guitare chez Glise, mais du banjo et du tuba pour jouer le rôle de la basse comme chez nos copains de Delgrès. Banjo, tuba, batterie, c'est la formule hyper efficace de ce power trio. Comme Nathan Roche, les garçons de Glise vivent loin de la ville, sur le plateau jurassien. C'est d'ailleurs là-bas, dans une vieille ferme du 18e, qu'ils ont enregistré leur nouveau disque qui s'appelle Mass, un disque conçu pendant le confinement, un disque inspiré par la collision permanente qu'on vit entre le flux incessant d'infos anxiogènes et le quotidien naturaliste de ces trois musiciens. Collision, tension, friction. Alors comment on fait pour survivre dans ce chaos moderne ? Eh bien, chez Glise, il est question de protection d'un animal totem, Glise ou le retour à la vie sauvage.
Hey.
avec Totem. C'est un des titres de Mass. C'est attendu pour vendredi. Il sera en concert le 22 novembre à Mézy-sur-Seine et le 2 décembre à Lons-le-Saunier. Yuletide. Vous voyez ce que c'est? Je le prononce mal, je suis sûre, Herman Dune.
Yuletide.
Yuletide.
C'est le moment de Noël.
Ouais, c'est la période des fêtes chez les anglo-saxons. Ça va en gros du 21 décembre au 1er janvier, je crois. Et c'est aussi le titre du nouvel album de Maxwell Farrington.
Je l'adore.
Mais oui, on l'adore, ouais. Ici. Musicien australien, comme Nathan Roche, décidément, c'est le fil rouge involontaire de cette chronique. Un Maxwell Farrington échoué depuis quelques années en Bretagne, où il exerce par ailleurs le très beau métier de cuisinier, quand il ne collabore pas avec son complice, le Super Omar, à modeler une pop décomplexée, une pop à l'aise avec les clochettes de Phil Spector, comme avec les loops de Tame Impala. Pour son nouveau projet solo, il s'est rapproché de Yann Olivier pour enregistrer un disque dans la grande tradition anglo-saxonne des albums de Noël. Que des compos originales qui ne sonnent pas comme des clichés mais vraiment comme des classiques du genre. Il a d'ailleurs publié une chanson par jour depuis le 3 novembre jusqu'à vendredi, comme une sorte de calendrier de l'Avent musical, des chansons chatoyantes interprétées sans aucun cynisme. Maxwell Farrington yodel, roucoule, un vrai crooner avec du cœur.
Take the smile off any face. We're here by the stockings, the treasures of war. You'll dance by the pillow, and when the presents are all torn, hold me away, my darling. That's not the same as what it was a while ago, but it'll do. Thrown in a lake, I'll buy you anything you want. Don't ever say the boxing's half of what you owe. We're here by the stockings, our treasures are born. You'll dance on your pillow when the presents are old.
Maxwell Farrington avec un nouvel album Yuletide and Yuletide with Yann Olivier. Ça sort vendredi chez Upton Park. Nathan Roche glisse Maxwell Farrington. Est-ce qu'il y a un son qui a retenu votre attention,
bah, Herman Dune? Moi, j'adore la musique de Noël. Je suis parti de chez moi là, pour la tournée en été. Je vais revenir. Toutes les rues vont être remplies de chants de Noël.
Oui, je rappelle quand même que vous vivez à Los Angeles. Sinon, ouais. Les gens ne vont absolument pas comprendre. Ils vont se dire, mais où est ce pays merveilleux?
Ouais. C'est pas comme
non,
ça chez nous.
Ça se remplit. Alors, tous les cafés, toutes les boutiques se remplissent de chants de Noël. Moi, je mets les décorations sur la maison, tout ça, j'adore. Mon petit chat, j'ai un chat noir, on lui met le petit chapeau et tout de Père Noël.
Non, ah, vous allez jusqu'au bout.
Ouais.
Et vous avez un album de Noël de référence?
Oh, y en a plein, j'adore. Tout le monde l'a fait, hein. J'adore Dean Martin, ses chansons de Noël, Elvis, plein de trucs. Moi, je suis en train de travailler sur une chanson, là, j'espère pouvoir. Bon, ça, ce sera vraiment last minute, mais j'espère pouvoir la sortir avant Noël. J'écris une chanson. Là, en tournée, une chanson de Noël que j'espère pouvoir enregistrer, mixer, masteriser et sortir avant Noël. Bon, mais comme je rentre...
Vous rentrez combien?
Je rentre le 25 novembre, donc ça va être un peu chaud.
Et de votre côté, Thomas Joly, il y a un son qui a retenu votre attention?
Le premier?
Nathan Roche?
Yes, parce que l'attitude... parce que moi, je suis un peu obsédé en ce moment par l'attitude rock, ça veut dire quoi rock, etc., opéra rock. Et tous les soirs, avec les chanteurs et les chanteuses, on travaille là-dessus. Et là, il y a de la vraie attitude.
C'est vrai. Je confirme.
J'ai très envie qu'on s'inspire.
Côté.
Je veux bien un peu plus de vocodeur encore, s'il te plaît.
Club.
Sur France Inter.
Et c'est le premier moment live de la soirée, la séquence live avec David Herman Dune. Je vous laisse gagner le micro et la guitare pour ce Black Dog, premier extrait de cet album, The Portable Herman Dunes Volume 1, en live dans Côté Club.
Someone or something, sitting on the bench in between the four towers that I love, and where I go and walk my dog,
yourself a big black dog. Black dog barking at me. Black dog willing to bite me. Black dog, I'll never harm you. Black dog, what a joy to see you.
Côté club, prise de son ce soir, Florent Dorimini, Vincent Désière. Un mot d'abord sur cette casquette qui me fascine. Une casquette sur laquelle il y a marqué « The Sardine ». C'est quoi « The Sardine » David Armandioun?
Alors, « The Sardine », c'est le club qui a en haut de ma rue, qui s'appelle « The Sardine », à San Pedro, donc le port de Los Angeles, qui est un peu genre l'équivalent du Havre des États-Unis, le plus grand port d'Amérique du Nord. Et The Sardine, c'est un club qui a été ouvert par Todd Congeliere, qui est un skater professionnel et aussi qui a un groupe punk assez connu qui s'appelle Clown Sounds. Et je joue avec lui d'ailleurs dans un groupe de reprise des Pogues, qui est un de mes groupes favoris, où je fais la mandoline. Et pour chaque solo, on me donne une Guinness. Donc,
super.
Ah bah, c'est super.
Ça vaut le coup.
Il y a des gens qui savent parler aux musiciens.
Et c'est un club qui est devenu assez mythique parce que Mike Watt, je sais pas si vous connaissez Mike Watt. Mike Watt, c'est le créateur des Minutemen, un groupe de punk qui faisait que des chansons d'une minute. Et qui est aussi le bassiste des Stooges dans la dernière itération. Et voilà, donc Mike Watt joue toutes les semaines. Et moi, je joue, je suis le seul artiste folk. En fait, ils se servent de moi quand il y a des journées portes ouvertes pour que les voisins approuvent que le club continue. Ils font un concert d'Armandune pour être sûr que ça fait pas trop de bruit.
Pour calmer le jeu.
Voilà.
David Armandune, donc avec un nouvel album qui annonce une trilogie, c'est une anthologie acoustique, 22 ans de compositions jouées dans leur plus grande expression. Après 22 ans de musique, qu'est-ce que ça raconte de rejouer vos titres de façon aussi sobre?
Bah écoute, franchement, j'ai l'impression de les jouer comme j'aurais dû les enregistrer. Ça a commencé pendant le confinement, vu qu'on en a parlé, je faisais des petites émissions, donc pas comme vous, professionnels, mais des petites émissions entre guillemets de radio de ma cuisine où les gens se branchaient toutes les semaines. Et puis j'étais obligé de changer un peu le programme, de regarder dans les premières chansons. Donc Black Dog, là, que je viens de jouer, je l'ai écrite quand j'étais adolescent. Et certaines chansons, comme celle-ci, je la rejouais et puis je ressentais des choses que je pensais pas ressentir. Parce que quand vous me voyez pas là, mais je ne suis plus adolescent. Et j'ai ressenti les mêmes sensations. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de vrai encore et j'avais envie de la refaire. Et Voilà, il y a plein de chansons comme ça que j'ai voulu faire et pour lesquelles j'ai voulu tourner. Ça fait 10 ans que je n'ai pas tourné, donc ça m'a vraiment inspiré. Ouais.
Mais justement, ça fait 10 ans que vous n'avez pas tourné. Vous vous produisez le plus souvent à Los Angeles dans des cafés qui sont à côté de chez vous. Ça signifie quoi ce repli? Pourquoi n'avoir pas tourné pendant 10 ans?
Je ne sais pas, je pense que j'ai eu un... J'ai beaucoup tourné, hein. Je faisais dans les 200 concerts par an.
C'était énorme.
Ouais. Et j'ai eu un espèce de rejet. Honnêtement, je vais vous dire, je trouvais que le monde dans lequel je vivais dans la musique était trop masculin. Et ça m'a un peu... comment je pourrais dire? Pour parler bien en français, ça m'a gavé. Et j'en avais marre. Je voulais plus être dans un monde qui était uniquement masculin. Et je suis parti pendant 10 ans. Et là, je reviens avec grand plaisir. Je remarque que ça a changé. J'ai demandé notamment à ce que toutes les premières parties soient féminines. Il y a des artistes géniaux, j'en vois tous les soirs. Et il y a des équipes entières, ça a changé. Ça se diversifie un peu et tant mieux. Et je suis très content de tourner, je crois que c'est une de mes tournées préférées.
Pour qu'on mesure la différence de traitement entre la version originale et puis la version 2022, on va écouter « I wish that I could see you soon ».
I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go,
how long till you can see her?
And I'm like, the sooner the better.
Do you really think she will wait for you?
Well, I have nowhere to say, and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say.
C'était super déjà.
Ben merci,
bah ouais.
C'est un bon souvenir pour moi, ouais.
Et la version 2022?
I had no plan to meet you, baby. There were a million things to do, baby. But you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. And then she went,
how long till you can see her?
And I'm like, you know, the sooner the better.
Do you really think she will wait for you?
Well, there is no way to say, and there is nothing I can do.
No way to say, and there is nothing I can do, do.
Quelle est la voix qu'on entend sur cette nouvelle version?
C'est Caitlin Rose, d'ailleurs, qui sort un nouvel album cette semaine, que j'adore. Une chanteuse de country très jeune de Nashville, qui est maintenant devenue une de mes meilleures amies. On joue beaucoup ensemble, on collabore beaucoup.
J'ai une question sur, justement, quand on reprend ses chansons, quand on reprend ses titres dans une version plus dénuée, qu'est-ce qu'on apprend de la musique qu'on écrit?
Eh bien, on apprend que ce n'est pas toujours les chansons qu'on croit qui sont les meilleures. Certaines chansons que j'ai redécouvertes où j'étais, je te dis, adolescent, je me suis dit que, ouais, non, ça tenait la route, que j'écrivais bien. Et certaines autres chansons que j'avais écrites en me sentant songwriter, non, j'avais pas envie de les refaire, tu vois. Donc c'est, il y a quelque chose dans, si je peux me permettre de dire, la poésie qui est plus fort que la technique. Et je m'en suis rendu compte en enregistrant cet album.
Thomas Joly, vous jouez de la musique?
J'ai fait un peu de piano, mais non, j'ai arrêté. Par contre, j'ai une question là.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des chansons, même si on les écrit il y a longtemps, qui en fait sont pour maintenant?
Bah ouais, c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que j'ai ressenti, que j'ai pas su dire, donc merci. Il y a eu des chansons où, voilà, j'avais envie de le dire maintenant. Je me revoyais pas adolescent, où j'avais envie de dire ça, c'était ce que j'avais envie de dire. Et le morceau Black Dog, où je me souviens d'avoir été un jeune homme timide, voir une jeune femme avec en train de fumer une cigarette et de l'imaginer presque en lycanthrope. Je sais pas, c'était fascinant pour moi, un soir... où j'habitais encore chez mes parents et tout. Et ce sentiment d'être timide et de voir quelqu'un de fascinant, voilà, je l'avais, je le sentais, je le chantais pour maintenant, tu vois. C'était pas du tout une façon de faire une chanson d'adolescence, quoi, pour moi.
Vous avez choisi un deuxième titre pour le deuxième live. Quel est ce titre?
Alors, c'est Say You Love Me Too, qui est un morceau que j'ai écrit plus récemment, mais que j'adore, donc je vais vous le chanter.
Eh bien, tout de suite, on vous écoute. Oui, Marion?
Juste un mot sur la guitare que vous utilisez. C'est la guitare avec laquelle vous faites toute la tournée? Vous jouez que sur cette guitare?
Alors, figure-toi que...
C'est pas la Gibson LG?
Non, du tout.
Ça, c'est la guitare qui est encore plus vieille que ma Gibson LG. C'est une guitare suédoise, une Levin, un luthier suédois, que j'utilise. J'ai donné un jour de repos à ma guitare Gibson parce qu'elle en avait besoin.
Ah,
et
oui.
Je prends celle-là qui est la guitare sur laquelle j'ai fait l'album Giant, par exemple.
Elle date de quand?
Elle date, je crois, de 51.
Alors que la Gibson date de 54. Vous avez une mandoline qui date des années 30. Il faut toujours que les instruments soient vintage, pour vous?
Alors, je sais.
Alors, David Hermann.
Je ne sais pas si c'est psychologique, mais d'avoir une mandoline des années 30 qui sonne bien, on a l'impression d'avoir un objet très précieux. J'ai hésité avant de les prendre en tournée, parce que Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que je suis fou de partir avec mes meilleurs instruments. Mais je trouve que c'est tellement important pour moi qu'il faut que je les montre, que je les donne au public aussi. Et je sens quelque chose de... Ça a une présence magique, un instrument que j'ai besoin d'avoir avec moi.
Ils sont assurés ?
Non. J'y avais pas pensé. La question. Voilà, je vais pas dormir maintenant.
Ben voilà. C'était pour ça. C'est mon rôle. Allez, okay. Vous gagnez le micro. Okay, et donc, cette guitare de 1951 avec ce titre. Extrait de ce nouvel album qui reprend votre répertoire David Hermandun en live pour Côté Club.
Remember what I said, if it wasn't much, I said it yesterday, lying in the couch. You sang a Lucinda with your ruby mouth. I went and kissed you by the window, and then it all went south. Somewhere in all the noise, I uttered a word. You weren't entirely poised, but I could tell you'd hurt. Some dreams vanish at dawn, and others stick with you. And now I hope you'll wake up and run and say you love me too. Yeah. Ooh, say you love me too. Ooh, say you love me too. And now I'm going through the tapes scattered in my car, and my black cat is sleeping in the case of my guitar. I come across car wheels on a gravel road, and I think now I know how it feels when your heart explodes. Yeah. Ooh, say you love me too. I was taught how to count the date, but the stronger the passion, man, the harder the wait. You know what I'm saying, but I will give you a clue. I told you I loved you, baby, now say you love me too. Say you love me too.
David Hermandun, deuxième live de la soirée à la guitare et à l'harmonica, en live au studio The Sardine de la Maison de la Radio et de la Musique.
On va l'appeler comme ça maintenant, le 621.
Exactement. Alors comme vous sortez justement ce nouvel album qui revisite votre parcours, vos 22 ans de musique, j'ai une question qui revient sur vos débuts, David Hermandun. Au départ et pendant des années, vous n'avez pas eu de manager au départ, pas de maison de disques attitrée, vous avez bricolé des enregistrements sur des cassettes, des 45 tours, des CD gravés dans la chambre que vous vendiez à la fin des concerts. De cette époque, en fait, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans votre vision de la musique et de l'industrie musicale ?
Bah, j'ai toujours pas de manager, j'ai toujours pas de label, vu que c'est mon propre label. Mmh. Et je fais toujours tout seul, ouais, donc il me reste ça, ouais.
Mais à un moment donné, vous aviez signé avec, vous aviez intégré EMI.
EMI par le biais de Philippe Ascoli, qui est un très bon producteur français, qui m'avait contacté sur, à l'époque, alors je vais faire ricaner les jeunes, sur MySpace. Et
il n'y a que Thomas Joly qui a ricané, c'est le seul jeune manifestement de la bande.
Et donc, Philippe Pascoli qui m'avait contacté sur MySpace et qui m'a permis de produire deux albums un peu plus étoffés, point de vue instrumentation, qui sont Giant et Next Year in Zion. Avec
Giant était formidable, ouais.
Ouais, section cuivre, section percu, des chœurs un peu tout ce dont j'avais rêvé. Donc j'ai fait ça, c'était mon expérience, mon incursion dans la grosse production. Et puis là, je suis retourné à mon studio, qui est très bien.
Vous avez été né à Paris au milieu des années 70, vous êtes installé aux États-Unis depuis 2015. Pour quelle raison? Est-ce que c'était le sentiment de n'avoir pas une place dans le paysage musical français? C'était parce que d'ailleurs, vous n'avez jamais enregistré en France, vous avez tourné partout dans le monde. Enfin, la France n'était juste une sorte de base, c'est tout.
Ben moi, j'ai toujours voulu vivre aux États-Unis depuis que je suis petit. Je suis d'origine suédoise. En Suède, on a un gros culte des États-Unis. Donc, ça n'a rien de politique, c'est juste que j'ai toujours rêvé de vivre là-bas. Et dès que j'ai eu l'occasion, je suis parti parce que, voilà, moi j'aime par exemple, je parlais de la sardine, des clubs comme ça, c'est ma vie, c'est ma nourriture. Et en même temps, ce que ça m'a apporté, là, d'être aux États-Unis, c'est le plaisir d'être en France. Là, je suis tombé amoureux de la Bretagne en tournée, je suis devenu dingue. Je voulais m'acheter le drapeau, tout ça. Enfin, je suis peut-être un peu plus...
Vous avez déjà acheté un pull breton que vous avez aujourd'hui.
Ouais, ouais, bah exactement. C'était pour le jour de mon anniversaire. J'ai demandé à mon ami Arnaud, qui est le tour manager, qui est breton, dis-moi quelque chose que je peux acheter, où je me souviendrai toujours de la Bretagne, pour mon anniversaire et que je puisse ramener chez moi, que personne n'aura. Et il m'a dit ça, et je l'ai pas quitté depuis. J'espère que l'odeur vous dérange pas, mais...
Bah non, on est très espacés. Vous savez, aujourd'hui, depuis le Covid, l'espacement nous gagne. Vous auriez pu vous installer à New York, il y a plein de clubs aussi. Pourquoi vous avez choisi Los Angeles?
J'étais à New York pendant longtemps. C'est un peu le sas d'accès des États-Unis pour les Européens, parce qu'on peut marcher, prendre des cafés, tout ça. Donc... les gens sont souvent obsédés quand ils arrivent à LA, qu'il faut prendre la voiture, que ça ressemble pas. Mais moi, je pense que ça me vient de la Suède aussi. C'est mon idéal, c'était quand même d'avoir de la nature. Et à LA, tu peux être en plein centre et avoir un coyote qui passe devant toi. Moi, j'ai des raccoons, des ratons laveurs qui logent sur mon toit. J'ai trois chats, j'ai un pêcher, je fais de la confiture. Voilà, moi, je vis pour ça.
Vous vivez à San Pedro, c'est un quartier de Los Angeles très particulier, au bord du Pacifique. Quelle est la particularité de ce quartier, puisque vous y enregistrez aussi? Et plutôt, même autre question, quel est le son que vous pourriez associer à cette partie de la ville?
Ouais, c'est un quartier, donc on travaille sur les docks, qui commence à vivre vers 3h du matin. À 5h du matin, on voit le soleil se lever sur le port, c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie. Il y a le seul pont de Los Angeles, un grand pont qui va à Long Beach, qui est très beau. John Fante a écrit là-bas. J'habite dans la rue où habitait Charles Bukowski, qui est un écrivain que j'adore. Joe Hill, syndicaliste et songwriter et cartooniste suédo-américain du début du XXe siècle, a créé le syndicat de International Warehouse Workers à San Pedro. Donc c'est un quartier qui a une grosse histoire à la fois ouvrière, et mon grand-père était syndicaliste convaincu, donc j'ai tout de suite aimé ça, surtout aux États-Unis. Et il y a la seule église suédoise dans ma rue, donc voilà, je vais acheter les bonbons de mon enfance, pas loin. Et mes chats sont certainement les descendants de chats de Bukowski. Enfin, il y a plein de raisons, j'adore. Mon studio est en bois, il a été construit en 1912, j'ai le son comme ça de comment on appelle ça, du cèdre américain qui vient directement dans mes micros. Voilà, j'ai plein de raisons. Je n'ai pas tout dit là, mais j'ai déjà trop parlé.
C'est déjà le paradis. On a tous envie d'aller y vivre.
Ouais.
Qu'est-ce que ça vous inspire,
Thomas Joly?
Ah oui.
Tellement on a envie de. Tu veux pas nous inviter?
Allez, bah oui, c'est ça. Allez. On va tous partir.
Je vous invite à
goûter. Sauf Marion.
Ma confiture de pêche.
Elle a du travail ici. Elle est de Besançon.
Moi, je viens.
Avec son chien. On va se quitter sur une vision folk et americana, mais à la française, avec Baptiste W. Hamon, qui nous mène jusqu'à la lumière sur France Inter.
C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, on voit bouger des lèvres. Face au miroir, on se demande encore à qui l'on a affaire. Et quelqu'un viendra-t-il un jour accompagner nos silences? Doit-on croire en cette chance? Avance, 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 ne retiens pas ta peine. La nuit s'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Des sous tes pas, des sourires que tu ne vois pas, qui t'éclairent, et ton visage déjà qui se tourne en arrière. Tu ne vas pas là où pourtant tes rêves t'ont guidé. Tu dis c'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit c'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière. Ils sont devenus quoi tes amis? Sont devenus qui? Ils ont fait des enfants pour combler leur ennui. Mais toi, qu'as-tu appris? C'est pas le moment, et puis le moment d'après, tu dis c'est déjà trop tard. Demain peut-être, mais demain tout redémarre. Tu ne vas nulle part, avance, avance, ne retiens pas ta peine. La nuit c'est fait pour épuiser les poèmes. Avance encore ton visage jusqu'à la lumière.
Jusqu'à la lumière et jusqu'au bout de la nuit. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Thomas Joly.
Merci beaucoup.
Starmania, c'est en ce moment à la scène musicale à Boulogne-Billancourt jusqu'au 29 janvier. Et c'est un gros succès. Avant de partir en tournée, les Zéniths de France, puis la Suisse, puis la Belgique. Et je signale aussi la série documentaire H6R3, tous les jeudis à partir du 24 novembre sur France Télévisions et sur France 3, Pays de Loire. Merci David Herman Dune.
Merci, moi aussi, les Zéniths de France.
L'album, c'est The Portable, je vous le souhaite. The Portable Herman Dunes, volume 1, avec des concerts demain au Brise-Glace à Annecy, samedi à l'Opéra de Clermont-Ferrand, dimanche à l'Épicerie Moderne de Lyon. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Et non, demain, ce sera avec Contrefaçon qui signe le DJ set de la soirée avec à ses côtés Coup de Lame. Je remercie l'équipe qui veille sur vos deux oreilles, Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Florian Dorimini et Vincent Dezière, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic, le trouble de la programmation. Et enfin, la programmation musicale est signée Valentine Chedebois et Thomas Joly ce soir. Côté club, c'est fini. Que la musique soit avec vous.
Oh, c'était formidable.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.